Vous êtes sur RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. À la une ce soir, va comprendre, allez comprendre ce qui se passe vraiment autour de la réforme des retraites. D'un côté, on discute et le gouvernement se dit ouvert, même si on ne comprend pas très bien sur quoi. De l'autre, il y a cet ultimatum de la CFDT de l'UNSA qui demande le retrait de l'âge pivot d'ici vendredi. Et pendant ce temps, les trains et les métros toussent toujours. Quant aux usagers, eh bien, ils subissent. À 18h15, c'est le monsieur retraite de l'UNSA, Dominique Corona, qui sera l'invité d'RTL. RTL Soir, il répondra aussi à vos questions. Pour les lui poser, vous nous appelez dès à présent au 3210. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Des questions légitimes, des mots même du ministre de l'Intérieur après la mort d'un livreur à scooter interpellé par les forces de l'ordre. L'autopsie révèle qu'il est décédé à la suite d'une asphyxie et que son larynx a été fracturé. Une information judiciaire pour homicide involontaire est ouverte. Des peines lourdes, jusqu'à 5 ans de prison ferme pour les incendiaires du péage de Narbonne. Les images avaient choqué en plein mouvement des gilets jaunes. La chercheuse franco-iranienne Fareba Adelka ne risque plus la peine de mort, signe d'ouverture. L'Iran a levé l'accusation d'espionnage qui pesait sur elle, mais elle reste en prison. Et puis Cavani finira la saison à Paris, retenu par le PSG, car le foot ce n'est pas du Monopoly, explique son entraîneur Thomas Tuchel. La bourse de Paris termine stable ce soir, moins 0,02%. Le CAC 40 s'établit à 6012 points. Enfin, les courses à Vincennes, il fallait jouer le 4, le 3, le 8, le 6 et le 16.
À 18h35, un artiste populaire mais aussi exigeant dans RTL Soir, Thierry Lhermitte. Il monte sur scène pour interpréter un texte magnifique de Simon Wiesenthal. Ça se passe au Théâtre Antoine à Paris. La météo, c'est avec vous Patricia Charbonnier. Bonsoir Patricia.
Bonsoir.
Pas de changement pour demain, on va rester sous la grisaille sur une bonne partie du pays.
Oui, toute la journée sur la moitié nord, avec de l'humidité en plus, on aura quelques pluies faibles et localisées. Dans la partie sud, pas mal de brouillard demain matin, parfois assez dense dans les vallées du Massif central, et puis ça va se dégager. On aura du plein soleil près des Pyrénées et entre les Alpes et la Méditerranée. Le tout avec des températures très douces, 1 à 11 degrés pour demain matin, et on attend même un pic de douceur pour demain après-midi et pour jeudi, avec 7 degrés demain après-midi à Mulhouse, 9 degrés à Nancy, 11 à Montélimar, 13 à Lille et Bordeaux, 14 à Paris et 18 à Toulon.
Merci beaucoup.
Thomas Soto, RTL Soir.
Sa famille dénonce une bavure policière. Selon le rapport d'autopsie publié ce soir, Cédric, livreur de 42 ans, est décédé à la suite d'une asphyxie et les examens ont révélé une fracture du larynx. Des résultats qui soulèvent des questions légitimes, selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Alors il est trop tôt pour établir la responsabilité directe des agents qui l'ont interpellé vendredi dernier à Paris, mais le procureur de la République a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire, Alice Moreno.
Oui, cette enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'intervention policière. Sur des vidéos de témoins diffusées sur Internet, on voit distinctement les fonctionnaires qui maintiennent Cédric au sol, le menotte, tandis que lui se débat. Et toujours, selon des témoins, Cédric aurait subi un étranglement. Sa femme, Doria, dénonce bien un homicide.
Il n'y a rien qui nous ramènera Cédric. Mon mari, c'est quelqu'un qui faisait son travail tout simplement et qui s'est fait contrôler. Ça a très mal tourné et ça aurait pas dû mal tourner comme ça. Je refute pas l'hypothèse qu'il ait pu être insultant, je vous le dis honnêtement. C'est disproportionné. Est-ce que pour autant, il mérite ce qui lui est arrivé? On est d'accord que non.
Alors l'asphyxie, la fracture du larynx sont-elles liées à une pression exercée par les policiers? En tout cas, le parquet ajoute que Cédric présentait un état antérieur cardiovasculaire. Sa famille précise bien qu'il souffrait d'hypertension. Des examens médico-légaux complémentaires vont être réalisés pour affiner ses premiers résultats.
Alice Moreno du service police-justice de RTL.
Dans l'actualité de ce mardi soir, il y a encore les retraites. On imaginait une possible avancée ce soir sur cette réforme. Les discussions ont bien repris, mais ce soir, on a l'impression que chacun campe sur ses positions.
Oui, pourtant, ce matin, sur RTL, le Premier ministre se disait ouvert à des discussions, acceptant même l'idée de la conférence de financement proposée par la CFDT. Mais voilà, Anaïs Bouissot, après une énième journée de tractation, tout semble encore figé.
Oui, une nouvelle journée de réunion qui a abouti, tenez-vous bien, à encore un nouveau calendrier de réunion. Réunion sur les métiers pénibles, sur l'emploi des seniors, sur les carrières des fonctionnaires et comme promis ce matin par le Premier ministre, budget du système des retraites. Mais il faudra encore attendre vendredi et seulement à nouveau pour une réunion de cadrage. Ce qui fait dire à Laurent Berger, le leader de la CFDT, que le gouvernement doit enfin trancher et annoncé que la mesure, je cite, punitive, l'âge pivot, qui inciterait à travailler jusqu'à 64 ans, que cette mesure-là soit retirée au plus vite. L'UNSA et la CFDT annoncent donc une mobilisation samedi prochain, le 11 janvier.
Il peut y avoir des rassemblements de militants CFDT, puis ensuite qui se dispersent pour aller à la rencontre de la population. Il y a un tract qui explique notre rejet de l'âge pivot, donc on va plutôt mener ce type d'initiative.
Samedi, ce sera aussi jour de manif pour ceux qui veulent carrément le retrait de la réforme. CGT, FO, CFE-CGC notamment. Ce soir, ces trois syndicats dénoncent un projet au point mort, sans aucune avancée. Et si personne ne s'accorde vraiment donc sur la bonne solution pour sortir de l'ornière, tous dénoncent à leur façon l'enlisement de la réforme des retraites.
Anaïs Bouissou pour RTL.
On a donc des négociations qui n'avancent pas et des trains qui n'avancent pas toujours non plus. Transport toujours très perturbé. 3 TGV sur 4 demain, un Transilien sur 2 à la SNCF. Trafic très perturbé également à la RATP pour ce qui sera le 35e jour de grève.
La RATP, oui, où le nombre d'arrêts maladie, on le sait, a explosé depuis le début du conflit. Alors sur RTL ce matin, Edouard Philippe a demandé plus de contrôle pour vérifier que les agents malades n'étaient pas en fait des grévistes déguisés. Mais en réalité, Arnaud Touche, c'est une information RTL, ces contrôles sont déjà accrus depuis le début du mouvement.
Absolument, nous avons eu accès à des données chiffrées. Selon nos informations, entre le 5 décembre, donc le début du mouvement, et jusqu'au 27 décembre, plus de 1200 contrôles ont été effectués. En temps normal, sur un mois, eh bien c'est moins de la moitié, environ 500. Ils ont donc été plus que doublés depuis le début du mouvement. Des contrôles qui ont des conséquences. Au total, 115 visites ont entraîné la suspension des indemnités. Et les raisons sont bien claires. Des agents n'étaient pas présents lors du contrôle ou le motif était injustifié. Autre donnée intéressante, le nombre d'arrêts maladie, il reste à un niveau très élevé pour la semaine du 23 au 30 décembre. Pour les conducteurs de métro par exemple, 554 arrêts maladie par jour ont été décomptés. C'était à peine 132 en 2018 à la même période. C'est pire pour les conducteurs de RER, 101 arrêts maladie par jour en moyenne, 5 fois plus qu'en 2018 et cela représente donc presque un conducteur de RER sur 8 en arrêt maladie. Enfin, presque 3 fois plus d'arrêts pour les conducteurs de bus par rapport à l'année précédente. 1626 conducteurs en moyenne se sont déclarés malades chaque jour entre le 23 et le 30 décembre.
Arnaud Touche du service économie de RTL.
On marque une courte pause dans un instant. Un an après le saccage du péage de Narbonne en marge du mouvement des Gilets jaunes, les peines de prison ferme sont tombées pour les incendiaires, jusqu'à 5 ans de prison ferme.
RTL Soir, 18h07.
Thomas Soto, RTL Soir.
Chérie, avec ton café.
Citroën.fr.
RTL Soir 18h09, Thomas Soto avec Céline Landreau pour la suite du journal.
Et jusqu'à 5 ans de prison donc pour les incendiaires du péage de Narbonne, Céline.
Il y a un an, en plein mouvement des Gilets jaunes, la barrière de péage de l'Aude avait été prise à partie par des manifestants, les locaux dévastés, les gendarmes forcés de battre en retraite. 31 prévenus ont été jugés en décembre au tribunal correctionnel de Narbonne. Les peines viennent de tomber et elles sont parfois lourdes, Patrick Hisson.
Oui, de la fermeté, puisque 4 hommes sont ce soir en prison, 2 étaient déjà en détention préventive. Et pour 2 autres, un mandat de dépôt a été délivré à l'audience. 17 autres prévenus ont été condamnés à de la prison ferme. Des peines qui seront souvent aménagées. Ce sera peut-être le cas pour Sofiane.
Moi, je compte faire appel. J'ai rien fait pour mériter 9 mois ferme. Je suis ni rentré dans les locaux, ni rien du tout. J'ai rien dégradé.
Et à la sortie d'une audience qui s'est déroulée sans aucun débordement, des gilets jaunes comme Béatrice ont regretté un jugement considéré comme beaucoup trop sévère.
Pourquoi il y en a 4 en prison alors qu'ils étaient plus de 200 là-haut et que les vrais responsables, ils n'étaient pas dans cette salle aujourd'hui. C'est un dossier politique, point barre.
Quant aux gendarmes, ils ont accueilli avec satisfaction ces peines prononcées où 30 des 31 prévenus ont été condamnés. Le colonel Marc Gonnet est le patron des gendarmes de l'Aude.
Pour nous, la justice est passée, ça nous permet de nous reconstruire au sens propre comme au sens figuré. Et nous espérons que ce jugement permettra d'assainir définitivement la situation.
Reste désormais une audience civile le 12 mai prochain, où le groupe Vinci réclame 10 millions d'euros et les parties civiles, essentiellement des gendarmes, près de 700 000 euros.
Patrick Hisson.
L'actualité à l'étranger, c'est l'Iran qui lève l'accusation d'espionnage qui pesait sur la chercheuse Fariba Adelka.
L'anthropologue franco-iranienne reste malgré tout emprisonnée, comme le chercheur français Roland Marshall, mais elle ne risque plus la peine de mort. Un soulagement pour Béatrice Hibou à la tête de son comité de soutien.
La première réaction, c'est toujours bonne nouvelle, parce qu'on est dans tel état d'inquiétude que quand on a une information et qu'elle va dans ce sens, c'est nécessairement une bonne nouvelle. Après, c'est quand même l'idée qu'il y a d'autres chefs d'accusation et qui ne sont pas négligeables. Il y a propagande contre la République islamique d'Iran, mais il y a aussi complot à la sûreté nationale, ce qui est quand même relativement grave. Donc oui, on est content, mais il faut continuer la mobilisation, il faut continuer a absolument demandé, exigé la libération inconditionnelle et immédiate de Roland Ifareba.
Un propos recueilli pour RTL par Brice Dugénie.
À l'Iran, plus de 50 personnes ont été tuées aujourd'hui, prises dans une bousculade géante. Ça s'est passé dans le cortège funèbre du général Soleimani, tué la semaine dernière par l'armée américaine.
Un assassinat qui provoque un nouveau regain de tension dans la zone et qui complique encore un peu plus le dossier sensible des djihadistes retenus dans le nord-est de la Syrie. Des milliers de terroristes et parmi eux des Français surveillés par les forces kurdes et qui n'ont aucune idée de leur avenir judiciaire. Notre correspondant Wilson Fash a pu se rendre dans l'une de ces prisons à Asaké où 5000 djihadistes sont détenus. Reportage.
Une porte est cadenassée, puis une seconde. Le dernier verrou s'ouvre enfin. Devant nous, des centaines de prisonniers habillés de combinaisons orange, comme à Guantanamo. Adel Mezroui est un combattant belge de 23 ans.
Nous avons peur de rester en Syrie pour toujours et de ne plus jamais revoir nos familles. Nous avons vu la guerre, nous avons été blessés. Maintenant, nous voulons rentrer chez nous. Nous sommes ici depuis 10 mois et nous n'avons aucune idée de ce qui va nous arriver.
Désormais, les forces kurdes de Syrie se retrouvent avec la lourde tâche de devoir garder en captivité des milliers de djihadistes du groupe État islamique. Or, la situation dans la région est de plus en plus instable. Robar, directeur de la prison d'Asaké.
Parfois, des cellules dormantes de Daesh rôdent autour de la prison et tirent des coups de feu. Ils veulent en fait envoyer un message aux prisonniers, leur dire que Daesh existe toujours. Bon, il n'y a pas eu d'attaque majeure ici, mais il y a eu une explosion dans une autre prison.
La question des djihadistes emprisonnés en Syrie est devenue un véritable casse-tête et pour le moment, personne ne semble avoir de solution.
Un reportage de Wilson Fash pour RTL. Et par ailleurs, la France indique ce soir qu'elle n'a pas l'intention de retirer ses militaires actuellement stationnés en Irak.
Le foot. Cette fois, c'est sûr, Cavani va rester, il va rester au PSG.
Oui, c'est en tout cas ce qu'assure la direction du club après s'être entretenu avec l'entourage de l'attaquant uruguayen. Cavani, qui était en contact avec l'Atlético de Madrid, mais qui restera donc bien à Paris jusqu'à la fin de la saison. Et son entraîneur, Thomas Tuchel, s'en félicite.
Nous avons le même avis. On veut gagner tous les titres possibles. Et pour ça, on a besoin d'une grande équipe et on a besoin de décisions difficiles. On n'aime pas changer trop pendant l'hiver parce que c'est pas Monopoly ici. C'est une équipe qui travaille vraiment bien ensemble et qui ont créé un spirit. Chaque joueur qui part, chaque joueur qui entre, c'est toujours un peu incertain et on n'aime pas ça trop.
L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, avec Philippe Sanfourche pour RTL.
Comme c'est pas le Monopoly ici non plus et qu'il faut créer un spirit, vous reviendrez à 18h30 pour
un
les
spirit.
Titres. Oui, c'est ce qu'il a dit. Vous n'avez pas écouté
Thomas Tuchel. Écouté,
vous n'écoutez jamais Thomas Tuchel, j'ai remarqué déjà. Merci quand même, Céline Landreau.
À tout à l'heure.
RTL soir, 18h14.
Cette grève n'est pas seulement la plus longue de l'histoire des transports, elle est aussi la plus confuse. Les négociations ont donc repris ce matin, Céline en parlait, mais on n'y voit pas franchement plus clair ce soir. Dans un instant, le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona, est l'invité d'RTL soir.
Il est de toutes les négociations. Pour lui poser une question directe, appelez-nous au 3210.
Thomas Soto, RTL Soir.